C'est bon, j'ai mis Maxime dans la présentation, oui, c'est bon.
Cette fois-ci.
Vous ne m'attendez à rien, et je suis quand même déçu.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, saison 9, épisode 2. Après notre première émission qui listait les saisons nouvelles de l'été passé, place à celles qui ont fait leur apparition. Autour de moi, l'inoxydable Stéphane.
Bonjour.
L'impétueuse Aki.
Ok.
L'astucieux Maxime.
Ah, okay.
L'infatigable Hugo.
Ah, toujours.
Et l'exemplaire Fred.
Oh, merci. Je vais essayer d'être un peu moins après.
Du haut de notre Watchtower, nous avons surveillé les indispensables de l'été, histoire de vous dresser déjà une liste de séries à rattraper avant le rush de la rentrée. On commence par la série qui a fait bouger Twitter, c'est She-Hulk, Hugo. Qu'est-ce que ça vaut ?
Qu'est-ce que ça vaut ? Oh là là. Pour moi, c'est ce que j'appelle le Cringe Fest. Voilà, c'était un festival de cringe.
Non, mais n'importe quoi ! C'est son avis personnel, je précise.
Oui. Non, mais en gros, j'adore Tatiana Maslany. Je suis content de la revoir. Je trouve qu'elle. Là, on a vraiment l'aperçu avec l'épisode 3 du rythme de croisière de la série qui va du coup avoir un fil rouge et plus un procédural un peu judiciaire, quoi. Sauf que niveau procédural, je pense que ça va être. On n'est même pas du niveau sud, quoi. On est vraiment. En fait, il y a des vrais soucis d'écriture, de prise au sérieux un peu de son sujet, quoi. Même si ça reste une comédie, je me dis, il faut quand même avoir un peu de tension et tout, quoi. Là, il y a zéro tension, complexité, on va dire. C'est vraiment en surface. En tout cas, la thématique judiciaire est vraiment traitée en surface. C'est vraiment juste un prétexte, quoi, d'avoir une avocate She-Hulk. Donc à ce niveau-là, en vrai, je pense que le côté procédural va pas marcher. Et après, le côté comique, en fait, moi, ça me fait pas rire une seule seconde, même pas sourire une seule seconde, quoi.
Bah, c'est du comique de Marvel, hein.
On est sur du comique de Marvel. Après, voilà, Miss Marvel, dont on va peut-être reparler, pour le coup, était beaucoup mieux à ce niveau-là, quoi. Mais voilà, c'est du Marvel wink wink avec un cassage de quatrième mur qui pourrait marcher et il marche une seule fois pour moi dans l'épisode 3 mais qui du coup est vraiment sous-utilisé et surtout déjà vu, quoi. La réal est en fait, il y a pas de réal, en fait, et c'est juste
il y a pas de...
y a pas de mise en scène,
il y a pas personne vraiment... en fait qui dirige cette série,
il y a pas vraiment d'élan visuel et surtout les sept post-gènes, en fait, c'est pour moi le cringe fest.
Elles sont post-gènes, ouais,
elles sont post-gènes. Non, mais en fait on va parler l'Elephant in the Room, c'est le post-gène du dernier épisode. En gros, là, on est vraiment dans le métavers actuel, c'est-à-dire que, tu vois, actuellement, dans Fortnite, tu peux être Son Goku qui fait des Kamehameha dans Fortnite, tu vois. Bah là, tu peux voir She-Hulk qui twerk avec Megan Thee Stallion, quoi. On est vraiment dans le festival, et du coup, je pense que je vais pas continuer. Malgré Tatiana, qui, pour le coup, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, mais en vrai, tout le projet, en fait, me risse les poils. Voilà.
Non, mais c'est clairement une série qui est basée sur le fait d'avoir des caméos qui vont arriver à chaque épisode, quoi. C'est juste ça, et il l'avance clairement. Moi, le seul que j'attends, du coup, c'est Daredevil, mais sinon, la série n'a aucun intérêt à part d'être courte. Mmh. Au moins, les épisodes génériques, une fois que tu retires le générique, il reste 20 minutes, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose à regarder, et heureusement, vu à quel point c'est vide, hein.
Comment Daredevil, l'univers de Daredevil et même Daredevil va pouvoir s'intégrer dans She-Hulk?
Parce que Matt Murdock est avocat.
Non, mais en termes de tonalité, j'ai du mal à être de faire une gymnastique des
regards comme de dire c'était hyper sérieux et c'est devenu une blague.
Daredevil était quand même dans le dernier. C'est Spider-Man.
Ouais, Spider-Man, ouais.
Voilà. Déjà, la porte, elle est franchie. Mais okay. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur la série de manière générale et encore plus sur la peau verte de Tatiana Maslany, parce que franchement, c'est
hideux.
Ouais.
C'est Miss Shrek.
Je suis désolé, mais je suis gêné à chaque fois. Et c'est pas tant le fait qu'elle soit grande, forte, peau verte, c'est ce manque de coordination avec les yeux, l'expression du visage qui vraiment à chaque fois, je suis un peu gêné. Et en plus, ils ont choisi de faire un angle d'attaque justement du judiciaire où on la voit très souvent comme ça, donc je comprends pas. Et par contre, je trouve que la série se laisse regarder très très bien. J'avoue que moi, le troisième épisode, oui, une fois passé l'humour Marvel wink wink, et c'est clair que on est totalement là-dedans, voire plus. J'ai vraiment apprécié le visionnage, comme j'avais
apprécié. Mais parce que ça dure 20 minutes, je pense.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Mais le pilote aussi m'avait plutôt plu. Je le trouvais assez resserré, assez assez intéressant. C'est l'épisode 2, moi, où j'ai eu vraiment peur. Ouais, je me suis dit, oh là là, cette catastrophe, il n'y a rien à sauver, c'est cringe au possible. Après, bon, en effet, je pense qu'il faut en venir aux fesses et qu'on n'aura jamais de bonne série Marvel.
Mais est-ce qu'elle n'est pas, justement, si elle était humaine tout le long, ça n'aurait pas été mieux comme série ?
Eh bien, dans l'épisode 3, elle est plus ou moins humaine tout le temps et c'est mieux.
Mais non, mais j'ai pas du tout cette interprétation de la série. Je suis d'accord que c'est très humour Marvel, wink wink, comme vous dites. Mais en fait, moi, ça m'est égal parce que l'univers Marvel, je le connais pas si bien que ça. Et je le regarde, donc du coup, moi, je suis contente de revoir des gens que j'ai dû apercevoir et que j'ai oublié complètement qui c'était. Ensuite, je trouve que le côté assumé comédie, c'est quelque chose d'assez rare, finalement, chez Marvel. Et c'est pas du tout, c'est pas vulgaire ni gros ou quoi que ce soit. Et je rigole en fait, c'est tout. Et bon, après, oui, j'aime beaucoup Tatiana Maslany aussi. Et en fait, je sais pas, moi je vois même presque ça comme une sitcom en fait, plutôt qu'une dramédie. Et pour moi ça marche. Alors oui, on peut dire les effets spéciaux comme on veut. Et en fait, c'était beaucoup moins pire que ce que je croyais quand tout le monde a commencé à démonter. Avec la bande-annonce, au final...
Ils ont retouché depuis, donc oui, normal,
oui.
Quoi.
Oui, mais pour moi, c'est quand même réussi, en fait. Je vois pas comment, autrement, à part s'ils avaient vraiment fait en prothèse tout le long, tu vois, de donner quelque chose de plus réaliste, en fait. Donc, je suis plutôt satisfaite. Et c'est vrai que le guest même de l'épisode 3, j'ai trouvé ça drôle, voilà.
Et comment sont Ginger Gonzaga et René Elise Goldsberry?
J'ai de la peine pour eux.
Ronnie Roseberry, honnêtement, c'est pas ouf, quoi.
Non, mais on l'a vu deux secondes. Mais Ginger, elle a un rôle de merde. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une excellente actrice et voilà à quoi elle est cantonnée.
René Elise Goldsberry, je sais que c'est pas une actrice qui est non plus ultra connue, mais quand tu l'engages dans ta série, tu l'exploites. Oui,
Fais-la chanter, bordel.
Ouais,
Honnêtement, je pense que ça va arriver. Je n'attends que ça.
Franchement, quand je l'ai vu arriver dans la salle, là, dans l'épisode 3, je me suis dit, ah, tiens, elle, je la reconnais. Après, je l'ai remise très rapidement, et après, je me suis dit, ah, elle a disparu. Ok, d'accord, très bien. Elle ne servait à rien. Elle a ouvert la porte.
Oui, mais je pense qu'elle va revenir. Pareil, c'est une collègue, donc elle va revenir.
Ouais, mais bon, il y a combien d'épisodes à la saison ?
6.
Ouais, voilà.
Non. 8, non ?
8 ?
Si.
Ah, okay. Il y a ça aussi, il n'y a pas à faire des saisons aussi courtes, surtout quand tu fais des 20 minutes, et ça, que, mine de rien, tu installes un univers qui pourrait avoir une saison de 20 épisodes. Enfin, s'ils font du procédural sur certains épisodes, c'est pas grave. Enfin, ouais.
Sur le côté procédural, d'ailleurs, c'est pas moins procédural qu'Ilystone, par exemple. Vous voyez, on peut être un peu ridicule, voire dans l'absurde, dans le droit. Ou Ally McBeal, tu vois. Je veux dire, on va pas dire que le côté juridique d'Ally McBeal, c'était ouf, quoi.
C'est la référence pour la série, en plus, Ally McBeal. Hein.
Je pense.
Clairement.
Oui. Non, mais elle l'a dit, Jessica Gao. Ah.
Bon. Et donc, oui, c'est toujours en cours. Donc, certains vont arrêter, comme Hugo. On verra dans quelques semaines, on lui demande. On lui
peut-être, peut-être que ça devient ma série préférée 2022 dans quelques
on
semaines.
Sait pas, oui.
Parce qu'un cliffhanger de ouf à la fin.
Bah, sûrement, en fait, le dernier épisode sera très bien, comme à chaque fois. Mais...
Ouais.
Stéphane The Resort, qu'est-ce que c'est cette petite série dont personne n'a parlé ?
Alors, c'est normal, c'est parce que c'est sur Peacock.
T'as Peacock, toi, du coup.
Oui. Mais j'ai un cousin d'Amérique qui m'envoie les DVD.
Ah oui, voilà, d'accord. Okay.
Et les cassettes, pardon. Et donc c'est une...
Merci.
Ça va être dur à résumer quand même.
C'est un couple, il va en vacances et il découvre...
Il part en vacances pour fêter son anniversaire et là il tombe sur des vieux téléphones qu'il lie à disparition d'un autre couple. Jeunes dans les années 80. Voilà. Non, 2007. Oui, c'était 15 ans. C'était pas en 80. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ça les emmène dans une chasse un peu
mystico-métaphysico,
quelque chose.
Voilà.
Enfin, en fait, c'est bizarre. C'est juste bizarre.
Alors, pour le coup, c'est plus ou moins fait par des gens qui étaient sur Lodge 49. Donc, on peut voir l'affiliation, mais alors à 100 km. Et c'est très bien. C'est très bizarre. Y a des ruptures de ton qui sont quand même assez chelous. Mm-hmm. Ça pousse très loin Christine Milioti, ça c'est très bien.
C'est très bien, quand même, comme toujours, très bien.
Ouais. Il la pousse assez loin, donc c'était vraiment top. Et en fait, il faut se laisser porter. Parce que je crois que, en fait, il faut la vivre et la ressentir. Et c'est.
Bah, ça peut être une enquête, on va dire, thriller. On pensait que ça allait être thriller un peu fantastique. En fait, c'est un peu plus ouais, psychologique et mystique.
Mais pour moi, c'est métaphysique.
Non, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la série, je l'ai prise un peu avec du retard. Enfin, je l'ai regardé la semaine dernière, sous vos bons mots. J'y ai vu aussi un mélange des genres, en fait, où on passe à la fois de l'enquête quasi policière à le drame de couple, la quête un peu fantastique, un peu à la Goonies, et après ça se transforme en effet, en
Lost.
Quelque chose d'ésotérique. Ouais, il y a un peu de tout, et ils arrivent à faire tenir ça autour du personnage, en effet, de Christian Milioti, qui, pour moi, porte la série de manière dingue. Le dernier épisode, vraiment, j'étais au bord de la crise de nerfs avec elle.
En plus, la caméra est braquée sur son visage, même quelques centimètres, et elle a une intensité dans le regard, mon Dieu. Ah ouais. On m'a donné des frissons.
Et pareil, le drame avec son mari, donc, qui est joué par William Harper Jackson, non, c'est ça ?
Oui.
Jackson Harper, oui.
Jackson Harper, que j'étais tellement content de retrouver après The Good Place. Ouais, c'est placé. même lui, je le trouve ultra crédible dans ce mec qui, en fait, voit sa femme partir un peu en couille, à propos d'un
un peu, en
fait. Oui, non, mais au début, c'est quand même à propos d'un téléphone portable retrouvé. Et
oui, c'est vrai.
Il la suit parce que, à la fois, il est un peu intrigué. Donc, on a quand même ce truc de, il me faut un sidekick pour mon enquête. Et en même temps, tu vois de temps en temps qu'il la suit aussi parce qu'il est inquiet pour elle. Il est inquiet pour son couple. Il y a des non-dits entre eux et tout. Enfin, je trouve que le drame de couple est tellement bien mêlé à la série que vraiment, quand t'arrives au bout du huitième épisode avec ces discussions qu'ils ont, alors qu'il leur arrive plein de trucs, mais complètement chelous. Ouais, c'est ultra rafraîchissant.
Mais c'est vrai qu'on est vraiment tenu par l'avancée de l'histoire parce que ça, bon, y a pas trop de surplace.
Et on est très surpris à chaque épisode.
Oui, c'est vrai que c'est qu'on sait pas trop où ça va nous emmener. Et justement, c'est que la fin, finalement, c'est une fin assez bête. Enfin, assez bête. Quand je dis bête, c'est assez simple. C'est-à-dire que tout ça, pour ça, quoi, c'est, y a pas de superflu, y a pas d'explication. Ça raconte ce que ça devait raconter. Et j'ai l'impression que
elle m'a fait beaucoup penser à la fin de The Leftovers, en fait.
Ah. Ah, moi, je trouve que c'est même plutôt l'exact inverse parce que, comme vient de dire Tom. Non, mais la résolution est tellement bête qu'ils nous disent, tout ce que vous avez vu depuis le début, tout ce que vous suivez depuis le début, en fait, c'était vrai. Entre temps, c'est juste que c'est tombé sur une meuf qui était complètement, bouleversée dans sa vie. Mais par contre, la quête était vraiment là. Vous aurez pas plus d'explications parce que eux non plus n'en ont pas. Mais ils ont suivi ce téléphone, ils ont suivi ce livre, et voilà, ça devient.
Ils ont trouvé par ça.
Même que ça se rapproche de Lost, c'est-à-dire que c'est une histoire de personnage plus qu'une histoire mystique, fantastique ou autre chose, quoi.
Ouais. Ah oui, clairement, oui.
Mais
clairement.
C'est vrai que cette scène de fin où tu as justement la résolution de l'intrigue, tu te dis c'est tellement bête, c'est tellement fait en 3 secondes. Et en fait, ouais, ça te paraît totalement normal.
Là aussi, il y a une rupture de ton et ça surprend et ça part sur autre chose, quoi. Et c'est, moi, je trouve que la série a été surprenante sur 8 épisodes quand même de
30 minutes, 35
minutes.
Ouais, ouais.
Franchement, j'ai trouvé ça assez couillu de faire ça tout le temps, en fait.
Et il y a Nico Ferman.
Oui, il y a Nico Ferman. Oui.
Et Skyler Gisondo aussi.
Oui. Et Debbie Ryan pour les fans de Disney. Insatiable aussi. Donc voilà, c'est 8 épisodes de 30 minutes. Donc voilà, c'est.
Bon, j'ai vu le premier aussi. Faut que vous me donnez envie. Hein.
Je pense pas qu'il y aura de saison 2. Hein, faut pas non plus.
Eh ben, pour le coup, la saison 2, s'il y a.
Anthologie.
Si les dernières secondes, il peut. Mm. Mais bon, après.
Et puis ça se passe évidemment dans un hôtel, comme dans White Lotus, vu que c'est la mode.
Voilà, c'est ça. En fait, on pourrait s'arrêter là. En fait, il faut la prendre comme un tout. Les 8 épisodes, le voyage, et puis voilà.
J'ai peur de l'avoir survendu à Hugo.
non mais t'inquiète, j'ai lu quelques trucs et tout, ça, okay. je sais à quoi m'attendre, enfin pas mais voilà, je.
Et donc c'est pour l'instant sur aucune plateforme. Ouais. Paper Girls à qui sur Amazon Prime.
Alors, c'est l'histoire.
Le pitch d'Aki.
de quatre jeunes filles qui sont livreuses de journaux à Cleveland. Et genre, ça se passe post-Halloween et tout d'un coup, elles vont se retrouver dans le futur et elles vont croiser la route de la version future d'une des quatre filles.
Voilà. Enfin, leur futur, c'est notre présent, quoi.
Oui, oui.
Tout à fait, puisque le début, c'est dans les années 80. Coucou, c'est
bien. Tout à fait. Bah, il n'y aurait pas de livreuse de journaux, sinon, je pense. Enfin, si, quoi qu'il y en a encore aujourd'hui.
Bah oui.
Oui. Alors, en vrai, j'ai été assez agréablement surprise. J'avoue, quand j'ai lu le pitch et les images qui, sur Internet, ça ne donne pas très envie. Je trouve que le production design n'est pas terrible. Mais en fait, on se prend vachement au mystère, à l'histoire. Et c'est pas du tout comme un Stranger Things, pour le coup. C'est plutôt voyage temporel, science-fiction, etc. Donc, il n'y a pas le côté fantastique, monstre, créature. Et ça tient bien la route. En revanche, c'est des gamines, hein, donc elles ont quoi, 12-13 ans. Et il y en a qui sont relous, mais au possible, vraiment. Et moi, j'aime beaucoup ce côté, passage, enfin, période charnière, des questionnements de l'adolescent, etc. Donc, c'est plutôt sympa sur ce côté-là. Et l'histoire temporelle aussi est assez intéressante. Et j'espère qu'on en saura plus dans la saison 2. Mmh. Voilà.
J'interromps cet épisode pour annoncer que Paper Girls a été annulé après qu'on ait enregistré ce podcast. Donc, pas de saison 2 pour la série de Prime.
Je crois pas en fait, je sais pas
s'il y aura assez de monde qui aura regardé pour faire une saison 2.
A fait grand buzz, hein. Enfin, j'ai pas vu.
Pas du tout.
Non, mais il y a la suite en comics, hein, c'est
y
pas
y
grave.
Les comics, voilà, c'est ça.
J'ai plus entendu parler de la série avant sa sortie qu'après.
Il n'y a pas de casting vraiment grosse tête d'affiche, ouais. Quoi. Donc c'est ça qui, je pense, qui joue en leur défaveur. Mais honnêtement, les gamines s'en sortent très très bien. Même, c'est plutôt surprenant. En revanche, s'il y a l'autre là, insupportable, le barbu là, comment il s'appelle, celui qui est dans The Dark Place, qui joue le copain de Janet à un moment.
Jason Mantzoukas.
Oui, ah, lui, oui. Oh là là, oui. Insupportable. Oui,
c'est étonnant parce que pour une fois, il a un rôle sérieux.
Mais non, tu te trouves sérieux, non, mais pas du tout. Il joue
par rapport à d'habitude, ouais.
Bah, il joue encore avec son truc insupportable. Il est insupportable, désolé. Voilà. Voilà, donc sinon à part lui, tout le monde est très bien. Merci. Ali Wong notamment. Merci.
Ouais.
Non mais je suis d'accord parce que les filles jouent super bien. Moi, j'ai eu du mal au début parce que j'ai trouvé la réalisation qui était assez assez hystérique.
Cheap, hein.
Et puis moi, c'est la photo qui m'a perturbé.
Et clairement, il y a pas les moyens sur la série par rapport à ce que ça veut raconter sur le voyage dans le temps. Et
bah, c'est normal, ils ont tout mis dans les robots. Enfin, dans les
ouais, mais on les voit pas beaucoup. Et encore, par rapport aux comics, il y a pas grand chose.
C'est vrai que j'ai arrêté après le premier. J'ai l'impression d'être devant une série de KD2A, quoi. C'était une série australienne de KD2A qui n'a pas d'argent, vous voyez.
Non, ouais. Mais en plus, ils l'ont vendu comme un Stranger Things parce que voilà, t'as des gamines à vélo.
Ah, oui,
et alors que c'est assez différent quand même.
Leur vélo, on les revoit plus après le premier épisode.
Non, tu pardon, les revois.
Je les vois quasiment pas, mais c'est surtout qu'en fait, t'as les doutes des ados qui sont bien représentés et c'est surtout des doutes sur leur avenir. Enfin, tu vois qu'il n'y a rien d'incertain, que c'est assez dépressif hein, quand même.
Oui. J'ai beaucoup aimé l'épisode où. J'ai oublié son nom, tiens.
Elle s'engueule entre les deux, entre l'intello et l'autre intello.
Non, c'est celle où elle a ses règles pour la première fois.
Ah oui.
Et
oui.
Quasiment tout l'épisode, eh bien, on parle de règles et elle demande de l'aide à qui un peu pour pouvoir l'aider pour trouver et où elles vont voler des tampons et tout. J'ai trouvé ça plutôt drôle, ouais.
D'accord.
Et non, très émouvant.
C'est pas mal, mais ça mérite plus de budget, quoi.
Ouais.
Si
oui,
on veut
clairement.
Quelque chose qui soit sympa. Mais si c'est pas confirmé, lisez le comics parce que le comics est plutôt chouette, assez déjanté.
Il faut juste mentionner le nom du créateur du comics parce que là, ça fait 2-3 émissions, on parle de lui et le pauvre, il a que des séries de merde, des adaptations de merde. Donc,
c'est vrai. Brian Kevon, l'auteur de Y The Last Man et de Saga aussi en comics, c'est génial et qui sera inadaptable hein, de toute façon.
Et
comme Sandman, hein. Normalement.
La fin de la saison 1, c'est une fin ouverte ou c'est.
Ouais.
Oui, c'est une fin ouverte, ouais, mais c'est une fin satisfaisante, je trouve, avec un bon cliffhanger, mais très bien.
D'accord. Et donc, c'est sur Prime. Sandman, Fred, sur Netflix, la fameuse.
La fameuse, c'était un peu le pari impossible, mais vraiment impossible, parce que Sandman, quand tu lis comics, tu te dis c'est effectivement impossible d'adapter ça, que ce soit en film ou en série, alors que le projet a traîné pendant des décennies, des années et tout ça. Ils ont quand même osé. Ils ont quand même osé et t'as quand même Neil Gaiman qui est le créateur du comics qui est à la prod hein, qui dirige un peu les choses j'étais agréablement surpris. Je m'attendais à une grosse daube vu le niveau des adaptations de comics par Netflix. Mais pour une adaptation de comics par Netflix, pour rendre le truc grand public, parce que Sandman c'est assez underground quand même, je trouve ça vraiment potable. C'est vraiment pas mal du tout. La production est bien foutue. Enfin, c'est plutôt joli à regarder. Les histoires sont assez fidèles. Dans l'esprit, il y a pas mal de trucs qui, beaucoup de trucs qui correspondent. Après, moi, je trouve que ça manque d'un côté vraiment écorché, d'une profonde noirceur. Même s'il y en a déjà, hein, il y a quand même des histoires de serial killer bien dark et tout. Mais ça manque d'un côté vraiment écorché de trucs qui te rebutent un peu à un moment donné. Et même si le casting dans l'ensemble est vraiment cool, il y a un gros problème sur Tom Sturridge qui a un miscast. Qui n'a absolument aucun côté mystique et qui fait la gueule pendant toute la série, mais qui n'a aucune. Voilà, ils auraient dû remplacer son visage par du numérique, pour le coup, ça aurait été.
Il fait la gueule partout dans Sweet Bitter, il était insupportable. Donc.
Mais c'est le gros point noir de la série, parce que sinon, sur tout le reste, je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi.
Bah franchement, après ce que tu as dit, je suis ravie qu'ils aient pas fait un truc plus noir ou plus quoi que ce soit, parce que j'aurais pas pu l'avoir sinon. Parce que là, c'est la bonne dose de ce que je peux accepter. Et déjà, parfois, c'était un peu too much. Donc, tu vois. Et je crois pas que, enfin, je crois qu'il est grand tout public en fait. Enfin, ça doit être PG-13, il est pas plus que ça.
Ouais, mais comme il est vendu, c'est un peu la série blockbuster de l'été de Netflix, si tu veux.
Arriver juste avant Game
of Thrones et tout. Et du coup, c'est censé être assez grand public, en tout cas assez accessible, quoi.
Et, bah, tant mieux.
Mais du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Et ils abordent quand même tout ce qui est serial killer, tous les trucs, toute la noirceur de l'âme humaine, c'est quand même assez bien abordé. Il y a des trucs qui sont graphiquement plutôt bien foutus, notamment en enfer avec Lucifer et tout ça. Donc, il y a pas mal de bonnes choses dans la série. Et j'étais ravi qu'ils nous offrent aussi un double épisode bonus.
Ah oui, c'est le dernier là.
Ce qui était fort, ce qu'ils ont fait de bien, c'est vraiment dans la narration où, alors que c'est pas, enfin, il y a un fil rouge, bien sûr, mais des épisodes qui sont quand même très détachés les uns des autres, ils ont quand même réussi à donner envie de continuer et à raconter une histoire complète. Alors que honnêtement, c'était pas si évident que ça de passer le premier épisode, le personnage central c'était quelqu'un, et puis le prochain c'en est un autre. Enfin, il faut s'accrocher un petit peu. Et au final, j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Voilà.
Après, ils ont quand même eu un casting de second rôle.
Incroyable.
Tiré à quatre épingles parce que Gwendoline Christie, elle est excellente. Enfin, moi, j'ai adoré la revoir. Et dans un rôle vraiment différent de Brienne. On a David Soulis qui est là pendant une grosse partie, qui est ultra flippant.
Ceux qui tiennent au professeur Lupin, on est sûr.
C'est ça. Et on a aussi Kirby Howell-Baptiste, donc encore The Good Place, qui moi m'a donné une version de la mort que je trouve vraiment très judicieuse.
Cet épisode est très joli.
Vraiment, c'est parfait. En plus, on raconte une histoire d'amitié avec les rêves, Dream, il l'appelle, qui aborde des thématiques que je m'attendais pas à voir dans cette série-là. Et n'ayant pas lu les comics, je m'attendais pas à grand-chose. Et finalement, j'ai passé un super moment devant. On sent encore un peu le côté comics avec ces histoires qui sont dos à dos entre tout le moment où il est enfermé et tout le moment où il y a le vortex. Tu sens que c'est vraiment deux histoires qu'ils ont collées dans une saison, mais franchement, moi j'ai passé un super moment. Ça faisait longtemps qu'une série Netflix m'avait pas tenu pendant 10 épisodes sans que je me dise putain, j'ai pas envie de regarder le prochain.
Et les épisodes sont assez longs en plus, donc tout à fait.
Et apparemment, peut-être pas de saison 2 vu que ça n'a pas vraiment. C'est pas vraiment resté dans le top 10 pendant très très longtemps. Donc...
Ouais, c'est peut-être que ça a coûté cher par rapport au résultat, peut-être. Ouais.
Si je peux mentionner, ça m'a fait tellement de la peine. Je l'ai retweeté à Michael Green, qui est l'auteur de la série, le showrunner de la série, et comment il s'appelle, Neil Gaiman. Ils sont allés faire des tweets pour dire oui, mais il faut profiter du. Non, il faut tout regarder d'un coup, même si vous regardez pas et que vous profitez, il faut laisser tourner pour que les algorithmes et tout ça, machin, pour qu'on. Mon Dieu.
En même temps, ça montre aussi qu'ils avaient un peu d'ambition pour leur série et qu'ils n'ont pas envie d'en rester là. Enfin,
oui, non, mais j'entends, mais c'est d'une tristesse absolue de devoir en arriver là.
C'est d'une tristesse, mais en vrai, ils ont raison. Ouais. Je suis désolée, mais
je dis pas le contraire, mais c'est d'arriver à ce que l'auteur, le showrunner de sa série, soit dire là, allez les gars, venez regarder, même si vous regardez pas, faites tourner. On a besoin pour une saison 2. Mais non,
tu te dis que maintenant, même avoir un nom pour Netflix, ça veut plus rien dire. Ils sont vraiment dans le contenu. Si Neil Gaiman, ça veut plus dire grand chose.
Mais ça voulait pas dire grand chose déjà.
Non, mais il a quand même.
Mais attends, toutes ses œuvres ont été adaptées à un moment, ça veut dire quelque chose.
Oui, il a quand même.
De toute façon, Netflix, ils ont très bien dit que maintenant, les œuvres d'auteurs qui coûtent cher, c'est fini pour eux. Hein. C'est plus dans leur New Elito.
Sandman, ça doit être
juste avant, et puis voilà.
Ils vont se faire bouffer par Amazon, vu ce qu'ils viennent de sortir.
Ouais.
Non, oui, bon,
ce sera pour un autre podcast.
Non, mais Amazon a augmenté les prix, donc les gens vont se barrer. Voilà.
Ouais,
non,
mais ils vont augmenter les prix. C'est toujours mon prime.
Oui, mais enfin, c'est les gens. Voilà.
Bah, c'est moins cher prime que Netflix, toujours.
Oui.
Hein. Oui, il faut mentionner aussi que l'épisode 11 est arrivé 2 semaines après la fin de la saison, quand même.
Voilà. Mais ça, c'était malin. Ouais.
Oui, mais pour le coup, pour continuer à faire profiter de la série. Donc, tu vois, ils peuvent faire aussi des choses. Ouais. Mais bientôt, ils vont te reproposer des épisodes à la semaine, tous les 15 jours.
Oui,
apparemment, l'épisode est arrivé un peu trop tôt parce que je sais plus qui avait déjà dit qu'il y avait un épisode bonus. À la base, ils voulaient le prévoir.
Oui, il y avait un youtubeur, Ça avait fuité, quoi.
Bon. Très bien. Avis Express maintenant avec The Summer Turn Pretty. Stéphane.
Eh bien, c'était le teen show inattendu de l'été qui était bien sympathique. C'était bien pour débuter les vacances. C'est une histoire vraiment très conne. C'est une fille qui est moche. Et bien, la puberté arrive.
Elle est pas moche, c'est une idée.
Non,
elle était
mal fagotée et mal payée. Et l'été d'après, ben, elle a grandi, elle a des boobs et elle porte ses cheveux bien comme il faut.
Super.
Et là, il y a tout le monde qui l'a regardé, tout le monde qui veut
Par contre, les garçons sont devenus tous très moches.
Hein
et en tout cas, ils ont des abdos et des pecs, donc voilà quoi.
Ouais,
Et donc, c'était bien sympathique, c'était joli à regarder. Et puis, il y avait des histoires quand même
un peu concon,
un peu plus émotionnelles. Oui,
c'est hyper niais.
Mais voilà, et puis avec les parents, de toute façon, moi j'aime les parents dans cette histoire, donc voilà, c'était sympathique.
Et d'ailleurs, c'est un peu moins développé que dans le livre, parce que dans le livre, c'est beaucoup plus, enfin, la facette des parents est beaucoup plus expliquée.
C'est vrai ?
Voilà. Mais en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est donc l'adaptation de la trilogie du même titre, c'est de l'autrice qui a écrit à tous les garçons que j'ai aimés. Et après, elle est coréenne, si je ne m'abuse, ou enfin américano-coréenne du moins. Et donc du coup, il y a toujours des Asiates dans ses séries, enfin dans ses livres, et ça change un petit peu aussi. J'aime bien ça. Mais c'est hyper niais. Enfin, j'ai dû lire des bouquins quand j'avais 15 ans et c'était déjà niais à cet âge-là. Donc, j'ose même pas imaginer aujourd'hui.
Il fait pour le coup, c'est ça l'est. Hein. C'est quoi, un peu con, un peu niais, romantique.
C'est mignon, quoi.
Mais c'est mignon. Voilà,
c'est genre les séries Hallmark, mais pour ados.
Pour ados.
C'est toujours pas le nouveau Dawson, quoi. Bon, tant pis.
Non, clairement.
The Bear, Maxime.
Une surprise à rebours, on va dire, parce que Stéphane m'avait absolument vendu la série, je vais pas dire survendu, je l'ai commencé avec du coup un peu d'attente, surtout que ça commençait quand même à tourner pas mal sur les réseaux sociaux, et j'étais un peu déçu par le début, où je m'attendais à quelque chose de plus installé en termes de personnages ou d'histoire, et en fait finalement, plus la saison passait, plus je me suis dit, il n'y a pas tellement d'histoire, c'est plutôt j'aime pas dire ça, pas une tranche de vie, mais on arrive à un moment où c'est critique pour eux et ça va rester critique tout le temps. Il y a pas de solution miracle, il y a pas de progression fulgurante, on va pas résoudre leurs problèmes tout de suite. Ça parle d'un resto qui est repris par je sais plus comment il s'appelle.
Le mec de Shameless.
Et il le reprend de son frère décédé. Il doit travailler avec son cousin et avec des employés pas toujours très sympathiques.
Sachant que lui vient
d'un grand restaurant.
Est-ce que ça donne envie de manger? Vraie question. Est-ce qu'on voit bien les plats, quoi?
Non.
Ah. Mais par contre, on voit beaucoup toute la lourdeur administrative. Tout le stress que c'est d'avoir un restaurant et on se focalise moins sur la bouffe. Et en fait, tu sais aussi pourquoi ces petits restaurants se focalisent moins sur la bouffe. C'est pas parce qu'ils manquent de talent, parfois. Ici, c'est pas le cas, mais c'est aussi parce que en fait, ils se font bouffer par. Il faut faire du chiffre pour rester ouvert. Chaque employé a. N'est pas forcément là par amour du métier. Enfin, y a...
En fait, t'es plongé carrément dans les coulisses d'un restaurant, mais vraiment les coulisses, quoi. Enfin, pas les trucs, vraiment, pas les plats. Tu vois les plats, et c'est vraiment très intéressant. Ça a changé d'habitude, en fait.
C'est ça. Enfin, moi, c'est ce qui, pour le coup, au final, m'a assez plu parce que je m'attendais vraiment à cette histoire qui n'arrive pas. Et une fois qu'on l'accepte, tu comprends, en fait, un peu le propos de la série. Et ouais, c'est vraiment, c'était plutôt cool.
C'est sur une plateforme
Disney Plus bientôt.
D'accord. Oui, c'est tout du à lu. Fait.
Cousin d'Amérique.
Non, ça arrive bientôt, genre le mois prochain, il me semble.
Ouais, et c'est la grosse surprise de l'été, hein, quand même. Hein. Il faut le dire, les chiffres d'audience ont quand même bien marché et tout le monde a été surpris. Ah, ouais. Il y aura une saison 2.
D'accord.
Oui. Ah oui. D'accord. Le bouche à oreille a très très bien fonctionné.
Le bouche à oreille.
Le bouche à oreille.
Miss Marvel, Fred.
Miss Marvel, bah pour une fois il y a une série Marvel qui était sympa, c'était pas arrivé depuis Loki, donc ça fait plaisir. Non mais c'est complètement du teen adapté par Marvel. Je trouve que c'est super rafraîchissant. Iman Vellani, elle est impeccable dans le rôle. Enfin, elle a tout ce qu'il faut, voilà, de fraîcheur, d'insouciance et tout ça pour qu'on s'attache tout de suite à elle. L'humour de Marvel qu'on décrit tout le temps, bah là ça rentre plutôt bien dans les cases, et il y a quand même des bonnes petites émotions à certains moments. Je pense notamment à un côté un peu flashback où on apprend des choses sur l'histoire de l'Inde et du Pakistan et tout ça. En tout cas, moi j'en ai appris, et du coup c'était quand même pas mal. Voilà, il y a un petit peu de fond aussi, donc voilà, il y a toujours les gros sabots de Marvel. Tout n'est pas parfait dans l'écriture, des fois c'est assez aléatoire au niveau des effets spéciaux aussi, mais en ce moment chez Marvel c'est un peu la galère, et bon courage aux artistes qui bossent dessus. Mais voilà, pour une fois j'ai pris plutôt plaisir à regarder la série, quoi.
Je confirme, le seul problème c'est que c'est trop court, encore une fois. Je suis désolé, mais 6 épisodes ça fonctionne pas, quoi.
Ouais.
En mérite 3, 4, 5, 6, voire même plus, ça aurait pas été dérangeant du tout, quoi.
Ouais, au moins une saison de 8 épisodes pour prendre plus le temps sur certains aspects, et après on sait qu'il y aura une saison 2, quoi. Donc, et puis on va retrouver l'héroïne dans un film après.
Oui, mais ça sera pas forcément, ça sera après la diffusion du film The Marvel. Ouais. Donc la saison 2 c'est dans 4 ans, est-ce que ça a du sens, quoi. Donc,
C'est tout le problème des séries Marvel, ça. Hein.
Elles sont inscrites dans un truc, mais dans une certaine logique. Mais non, j'ai dit 4 ans, mais en fait, ça sera peut-être sûrement avant. Mais
moi, je veux juste dire un truc. J'ai pas trop aimé la série, mais en revanche, j'ai trouvé que les scènes de combat étaient super bien foutues. Voilà.
Mais c'est vrai. J'ai une petite question, parce que je me suis arrêté à l'épisode 2. Oui, j'en ai vu 2. Il y a une histoire à un moment, enfin je veux dire je veux pas la mettre la tête sous l'eau, mais c'est vraiment sur les deux premiers épisodes, j'ai ressenti ce que je ressens à chaque série Marvel, c'est que pas d'histoire.
Oui.
C'est une identité plus qu'une histoire profonde.
D'accord.
Quoi.
Donc ça reste comme ça, on installe un personnage en fait. Okay.
C'est ça. Oui. Tout à fait.
Ouais. Bah je regarderai pas.
Après, moi perso, j'ai trouvé que la réal était plutôt cool. Ça me faisait penser à du Edgar Wright un peu, et même un peu à du Lord et Miller, tu vois, avec le montage, il y a bien travaillé, c'est beaucoup de comédie visuelle et tout. Donc j'ai maté ça juste après She-Hulk, et moi c'était un rafraîchissement, tu vois.
J'ai fait l'inverse, donc moi c'était la douche froide après pour She-Hulk. Mais ouais, non, il y a des petits effets, tu les as beaucoup au début de la série, et après ça se perd.
Mais c'est marrant que vous dites ça, parce que du coup Warner, qui a annulé Bad Girl, disait justement que en gros leur réal était un peu pourri, quoi. Et c'est les mêmes réels, si je m'abuse, c'est pour ça.
Bah là, ça marche peut-être mieux.
Mais Warner, en ce moment, on se méfie. Hein, donc,
Au secours, mais franchement, je
vous rappelle que le screencast qui a eu lieu a dit que le film était vraiment bien, donc voilà.
D'hab. Hein,
Queer as Folk, à qui ?
Oui, Queer as Folk, c'est donc un reboot. Enfin, en gros, c'est pas vraiment un reboot. Ça reprend le concept de Queer as Folk, donc un groupe de gays dans une ville.
Cette
ville-là,
c'est parallèle, quoi.
Cette fois-ci, c'est la Nouvelle-Orléans, et il y a un petit clin d'œil parce que le club à la fin du premier épisode, il y a une fusillade dans un club gay qui fait donc écho à Orlando, Pulse, etc. Et ce club-là s'appelle le Babylon, comme dans Queer as Folk US. Voilà. Et c'est très... J'ai bien aimé, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un peu de too much dans... Bon, je déteste dire ça, mais je suis très pro-woke, mais là, il y en avait un petit peu too much.
Non, mais oui, t'as raison.
En fait, alors, je vais tous les citer. Donc, bon, bien sûr, les gens de... Les people voir les gens de couleur, évidemment. Mais alors, on a une trans, on a une personne en situation de handicap, on a...
Plusieurs
personnes en situation de handicap, tout à fait, avec des handicaps moteurs et handicaps... psychique. Neurologique. Ah,
ouais, neurologique
et donc, il y a bien sûr une question avec une grossesse entre un couple de lesbiennes. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et en 8 épisodes, je peux vous dire que parfois, on est un petit peu. Oulala, calmons-nous un peu.
Tout ça entre scènes de cul, toutes les 30
non,
secondes.
Non, mais non, c'est ça, parce qu'il n'y a pas assez de cul.
Non, ça va, franchement,
non,
ça va.
Non, non, il n'y a pas assez de cul, je suis désolé. Non. C'est du coup un folk et on voulait du cul et il n'y a pas de cul.
Toutes les scènes d'ouverture, il y a quand même du sexe, je suis désolée. Et je pense que c'est la première fois que je me faisais la réflexion, c'était pas la première fois que je voyais vraiment du sperme, enfin une éjaculation à la télé. Voilà. Réfléchissez.
Ouais, mais.
Il y en a déjà eu, mais d'accord.
oui, il y a Dan Ipta qui a fait ça aussi.
Non, c'est je sais plus, une série avec Shiri Appleby. Je sais plus laquelle. Okay.
Ouais. C'était un reel, évidemment.
Non.
Bref, il y avait beaucoup de choses. Mais sinon, c'est sympa parce qu'on voit vraiment que c'est un mec qui a créé, qui est de notre génération. Donc, il y a les références qu'on a et qui a beaucoup aimé les deux séries UK et US. Et ça se voit en fait.
Alors, moi, je suis à la fois d'accord avec Stéphane, il n'y a pas assez de cul dans cette série, et d'accord avec toi, Aki, c'est parfois un peu le carnaval des minorités, et il faut parler de toutes en même temps, et en plus, elles sont toutes ensemble, elles se connaissent toutes. Enfin, c'est ça, moi, en fait, qui m'a dérangé plus que
ils ont tous couché les uns avec les autres aussi.
Ouais. En vrai, enfin, je veux bien croire que, et en plus, je suis concerné, mais que la communauté homosexuelle est plus ouverte que le reste du monde, et que du coup, les minorités s'attirent un peu entre elles, voilà. Mais là, je trouve que c'est trop dans un cercle restreint. Il n'y a pas assez de personnages pour que vraiment ils puissent tous avoir un peu leur questionnement ou je ne sais quoi. Enfin, il y a un truc qui m'a dérangé là-dedans. Tous les personnages sont imbriqués les uns avec les autres. Et je sais pas, parfois j'ai un peu l'impression d'étouffer dans tout ce qu'il voulait dire, alors que pourtant les personnages sont tous super intéressants, sont tous super émouvants.
Sauf le héros, quoi.
Ouais, le héros et encore. Enfin, moi je trouve que dans le dernier épisode,
on ne me parlait pas de la fin, c'est un scandale.
Ah ben ouais, mais moi j'ai adoré.
Je suis un peu choquée. Choquée. Bon, aussi. Ouais, avoir fait autant de wokisme et finir sur un truc comme ça, je suis un peu what?
Attends, on parle de quoi? On parle de oui, c'est vrai que c'est poursuivi après. Non, moi c'était plutôt la scène où il est sur scène justement et j'ai trouvé ça super émouvant, vraiment j'étais au bord des larmes. Enfin, je trouvais que c'était beau pour les personnages et que du coup ils avaient construit quand même de beaux personnages. Même si, ouais.
Et c'est sur MyCanal. Mais c'est sur MyCanal, non?
Pas que
attends,
ça.
Attends, je me fais douter. C'est non, c'est Starzplay.
C'est Starzplay, donc ouais, sûrement MyCanal. Enfin,
Starzplay,
oui,
sur
Prime aussi, je crois.
MyCanal, oui.
Oh là là, mon Dieu, on s'en fout.
Sinon, t'es dispo en Torrent.
Même Salto est disponible sur Prime. A League of Their Own.
Du coup, c'est une série qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Sur la création d'une nouvelle équipe de baseball féminin qui va rejoindre la ligue de baseball féminin. En gros, c'est ça.
Ouais.
Ça va, voilà. Et donc, en fait, ce sont des amatrices qui vont créer une équipe de baseball. Et c'est trop mignon.
Non.
Ah, bon.
Calmez-vous. Et je pense que c'est vraiment genre ma série préférée de l'été, de toute façon.
Voilà.
Ben bien sûr, je trouve ça hyper mignon. Alors c'est vrai qu'il y a des lesbiennes
partout.
Oui. Bah oui, il y a des queers partout. Voilà, c'est vrai. Mais je trouve aussi que l'historique est plutôt que l'historique est vachement bien fait. Enfin, c'est joli à regarder. Les actrices sont très bien. J'ai un peu pleuré, j'ai beaucoup rigolé, j'ai un peu caché mes yeux. J'ai trouvé ça mignon.
Par rapport au film, ça vaut quoi?
Ben le film est genre hyper noir et blanc quand même. Enfin,
ouais,
le film est sympa. Hein. Moi, je l'aime beaucoup le film,
oui,
mais
dans le film, elles sont toutes lesbiennes ou
Non. Enfin, il y en a. Tu devines qu'elles sont. C'est jamais.
C'est Hollywood
c'est jamais
des années 90.
En fait.
Vraiment, moi, c'est ce qui m'a gêné avec la série parce que tout le côté un peu mignon que tu dis, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est très bien fait en reconstitution. Les actrices, elles sont très bien, surtout Darcy Carden. Encore The Good Place, putain, c'est un bingo ce soir. Mais par contre, vraiment, moi, ce qui m'a gêné tout au long de la série, c'est elles sont toutes lesbiennes. Et c'est...
Mais elles sont pas toutes lesbiennes, la preuve. Il y en a une qui est genre homophobe.
Mais non, c'est pas ça. C'est que je trouvais que ça donnait un peu un stéréotype de il y a uniquement des lesbiennes qui veulent faire du sport ou qui sont bonnes.
Non, pas du sport, du baseball.
Je suis complètement d'accord, mais la vérité, quand même, dans certains sports, il y a plus de lesbiennes que dans d'autres sports.
Certes, mais enfin, faut avouer quand même que ça permet pas aussi de parler vraiment bien, justement, de ces choses. On a toujours le point de vue extérieur de. La société n'aime pas les lesbiennes, il faut que ce soit caché. Mais par exemple, là, au sein de l'équipe, il pourrait y avoir aussi des choses intéressantes à dire et qui ne sont pas dites. Parce que, très clairement, franchement, la scène où elles sont dans le bar gay et lesbien, je me suis dit, bah oui, il y a tout le casting. Enfin, ça sert à rien de. C'est une soirée entre le casting, quoi. Enfin, vraiment, j'étais un peu gênée.
Mais tu vois, ça, je suis sur le. Au premier visionnage, après je suis allée sur internet et j'étais plutôt d'accord, j'ai trouvé ça quand même, c'est un petit peu, bon, j'ai trouvé ça très bien, mais je trouve ça un petit peu abusé. Mais après, l'une des véritables membres de l'équipe de baseball, donc celle qui a inspiré Mabel, a dit qu'en fait c'était vraiment comme ça. Et donc en fait, ça m'a un peu calmé mes interrogations. Oui.
Ok, donc c'est vraiment historique, quoi.
C'était beaucoup moins ouvert dans le sens où personne n'en parlait ouvertement, mais elle-même disait, elle a fait son coming out sur scène, quoi, si vous voulez. Donc bref.
En fait, je crois que moi j'étais frustré parce que je pensais que c'était Darcy le personnage principal et c'était Abby et Jacobson et ça m'a frustré beaucoup même.
Qui sort d'ailleurs avec l'actrice qui joue Hélène dans For All Mankind. Voilà, petit moment gossip, pardon.
Faut avouer que Darcy Garden, enfin franchement, vole toutes les scènes.
Elle est ouf dedans, honnêtement, et je la trouvais pas particulièrement attirante, attractive dans Good Place, mais là, elle est genre ouf.
Ouais.
Elle est charmante. Ouais. Voilà.
C'est sur Prime, c'est en cours là ou c'est toute la saison ?
Non, c'est toute la saison.
Et enfin, Uncoupled, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire d'intéressant dessus ?
Non.
Maxime, vas-y.
C'était... Voilà quoi.
Pas bon.
Non,
ça se regardait.
Je savais qu'on aurait dû parler de Blackbird.
C'est clair. Non,
franchement, Uncoupled, ça se laisse regarder. C'est une série Netflix que tu binges très rapidement et c'est pas mauvais. Ça reste moyen. Et Neil Patrick Harris, c'est plutôt bon dedans.
Est-ce qu'il fait du Neil Patrick Harris? Parce que moi, c'est ça qui m'a rebuté. J'ai pas me lancé à cause de lui. Quoi.
Il fait du Neil Patrick Harris, mais avec plus de subtilité. Il est moins dans l'excentricité et le parcours de son personnage fait que t'apprécies un peu plus l'acteur aussi derrière. Enfin, vraiment, moi, c'est un peu ce qui a sauvé la série parce qu'après, en termes d'intrigue, c'est très chiant et la dernière scène, c'est juste une honte. Mais voilà.
Mais tu sens qu'il se sent concerné en fait. Donc c'est ça qui est aussi agréable. À voir, même pour lui, il est beaucoup plus investi que dans d'autres rôles, je trouve.
Et ça se voit. C'est une production, création d'Aaron Starr.
Ah. Ouais, tout à fait.
Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Évidemment, on n'a pas parlé de Blackbird, mais on en parlera, t'inquiète. On en parlera.
Ah, j'espère.
Merci Stéphane Aki, Maxime, Hugo, Fred pour ce tour d'horizon des séries de l'été. Évidemment, le lourd commence. Il y a House of the Dragon et Les Anneaux du Pouvoir. Ça, on va en parler aussi très vite, et aussi de Andor aussi qui va arriver.
Et il y a Si aussi.
Et Si, évidemment.
Oui, c'est en cours là. Ouais.
Donc on se retrouve évidemment très vite, il y a du lourd qui arrive. Merci à tous et à bientôt.
Ciao.
Merci, à bientôt.